Benjamin Auger, bonjour.
Bonjour.
Quel est le poids politique de Nnamdi Kanu ?
Nnamdi Kanu a commencé à acquérir une certaine popularité lorsqu'il était à Londres et qu'il dirigeait la radio Biafra, où il appelait justement à l'indépendance du Biafra. Et il est revenu au Nigeria après avoir passé plus de 2 décennies en Grande-Bretagne, où il a commencé à haranguer les foules, à organiser des manifestations et à poser des gros problèmes sécuritaires au Nigeria, à la suite desquelles manifestations il a été emprisonné. Donc il a eu un statut un peu de martyr auprès d'une partie de la population de Liboland, donc au sud-est du Nigeria.
Alors Nnamdi Kanu a disparu il y a un an, en septembre 2017, quand l'armée a pris d'assaut sa concession privée à Umuahia, dans le sud-est du Nigeria. Pourquoi cette réapparition un an plus tard ?
On peut imaginer que les élections de février 2019 pour la présidentielle et celle des gouverneurs le poussent à intervenir dans le débat actuel pour faire en sorte que la discussion porte aussi sur la représentativité des Igbos au pouvoir, même si lui, il a une vision très extrême des choses, c'est-à-dire qu'il considère qu'il faut que le Iboland devienne un État, comme à la fin des années 60. Mais il veut que ce sujet soit à l'agenda de la campagne et des élections de l'année prochaine.
De février prochain.
Oui.
Alors, Nnamdi Kanu appartient à la communauté Igbo, qui est l'une des trois grandes communautés du Nigeria. Dans le parti d'opposition PDP, le candidat au poste de vice-président à cette présidentielle de février prochain, c'est Peter Obi, qui est aussi un Igbo. Quelles sont les connexions entre Nnamdi Kanu et Peter Obi ?
Peter Obi est un ancien gouverneur de l'État d'Anambra, qui est un des trois principaux États où la population Igbo est largement dominante. Quand Nnamdi Kanu a été emprisonné, il a été l'un des fers de lance de sa libération en faisant pression sur le gouvernement. Après, les deux hommes ne s'apprécient pas beaucoup. Il y a déjà eu des interviews très directes de Kanu contre justement Peter Obi. Et Peter Obi, lui, est pour faire en sorte que la représentativité des Igbo se fasse au sein de l'appareil du Nigeria. Donc il n'est pas pour l'indépendance d'un Iboland, il est pour que les Ibos soient le plus représentés possible. Donc c'est deux stratégies totalement différentes.
C'est-à-dire que Peter Obi est solidaire de Nnamdi Kanu quand celui-ci est en prison, mais ça ne va pas plus loin.
Voilà, c'est ça, il considère que c'était un espèce de prisonnier politique et qu'il fallait le libérer parce que ça crée beaucoup beaucoup de tensions dans l'Iboland. Mais par contre, pour l'objectif de Nnamdi Kanu de l'indépendance, il n'est pas du tout sur cette ligne d'indépendance de cette région.
Alors justement, en vue de cette présidentielle, Nnamdi Kanu, dans sa vidéo réalisée en Israël, appelle au boycott des élections. Cela ne fait, j'imagine, pas du tout l'affaire du parti d'opposition PDP et de son candidat numéro 2, Peter Obi, non ?
Non, c'est sûr, mais c'est quelque chose à laquelle il fallait s'attendre, puisqu'il est contre le processus démocratique du Nigeria, qui pour lui ne devrait pas avoir la souveraineté sur sa région de l'Iboland, du Biafra. Donc c'est absolument naturel.
Et dans cette communauté Igbo, qui est très nombreuse, qui est l'une des trois plus grandes communautés du Nigeria, quelles sont les attentes ? Plutôt l'arrivée d'un Igbo comme vice-président ou plutôt la sécession et l'indépendance comme lors du combat pour le Biafra indépendant il y a 50 ans ?
Je pense que le combat du Biafra fait toujours beaucoup peur aux gens qui ont vécu cette période-là et ça continue à marquer ce territoire. Donc je pense que le combat de Nnamdi Kanu entraîne certainement beaucoup beaucoup de supporters, mais la plupart des gens qui sont dans l'Iboland sont plus pour faire pression sur le gouvernement central, quel qu'il soit en termes de parti, PDP ou APC, pour que la représentativité des Igbos soit la plus forte.
Le PDP, c'est donc le parti d'opposition avec Atiku Abubakar, candidat pour la présidentielle, et l'APC, c'est le parti au pouvoir avec le président sortant, Muhammadu Buhari. Hein.
Oui, quand vous parlez aux dirigeants de l'APC ou du PDP, qui sont des Igbos eux-mêmes, et il y en a à des niveaux très élevés, hein, le vice-président du Sénat est un Igbo de Enugu, leur objectif n'est pas l'indépendance du Biafra. Leur objectif, c'est justement d'avoir une meilleure représentativité. Et là-dessus, ils s'accordent tous, qu'ils soient PDP ou APC, pour dire que la représentativité des Igbos est trop faible actuellement. Et donc, il n'y a pas eu ni un vice-président ni un président Igbo depuis le retour à la démocratie et l'élection d'Obasanjo en 99.
Est-ce que depuis la guerre du Biafra, les Igbos sont marginalisés dans l'administration, dans l'armée ?
Non, je dirais pas ça. Il y a beaucoup, beaucoup de Igbos dans les ministères, dans les administrations, dans des postes très, très élevés. Mais en termes symboliques, le fait que, comme vous le disiez, c'est l'une des trois plus grosses communautés, c'est à peu près une trentaine de millions d'habitants sur 180 qui sont Igbo. Le fait qu'il n'ait ni président ni vice-président depuis plusieurs décennies pose certainement un problème symbolique à cette communauté.
Et peut-on dire que dans leur majorité, les Igbo s'apprêtent à voter pour le candidat d'opposition PDP en février prochain ?
Non, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a eu un gros travail de la part du parti au pouvoir qui n'est pas dominant dans cette région hein, du Sud-Est pour justement faire en sorte d'avoir des candidats, notamment au poste de gouverneur, qui puissent justement amener des votes au président Buhari pour la présidentielle. Je pense qu'il y aura une majorité probablement de Ibo qui iront vers le ticket Atiku Peter Obi, mais ils n'emporteront pas la région à 100%.
Y a-t-il un ressentiment contre le général Buhari dans la région du sud-est du Nigeria?
Oui, et plus largement, y compris dans le delta du Niger. C'est-à-dire, c'est pas uniquement l'Iboland, mais c'est aussi la partie qui est plus au sud, où la majorité sont des Ijaux, comme était Goodluck Jonathan, l'ancien président. Il y a un côté aussi qui considère que la région est totalement délaissée, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau, que les services publics sont pas là, alors que c'est la région du Nigeria qui est la plus riche du fait de la concentration de ressources en pétrole et en gaz.
Donc cette région est stratégique pour la présidentielle de février, hein.
Totalement, en particulier parce qu'il va falloir beaucoup travailler avec les hommes politiques APC parce que le ticket APC est entre un nordiste, donc Buhari, et un Yoruba de Lagos, Yemi Osinbajo. Donc ils n'ont pas dans leur ticket quelqu'un qui pourrait représenter la région du Sud-Est.
Benjamin Auger, merci.